Amen. Vous allez bien? Ce matin, j'ai eu la joie et le privilège de louper mon train. Le matin, très tôt, il fait 1 degré dehors. Je suis resté une demi-heure dehors, dans le froid, même un peu plus. Je me suis dit, je vais être frais pour ce matin. C'est bien, c'est parfait. Gloire à Dieu. Je suis souvent interpellé des prières de Paul. Et Paul, dans ses épîtres, a fait de nombreuses prières. Bien souvent, lorsqu'on lit les épîtres, on ne perçoit pas ces prières-là parce qu'elles sont englobées dans un ensemble, par moments cachées même dans un chapitre. Dernièrement, j'en ai abordé une et ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre prière que Paul va faire. Et vraiment, cette prière m'a touché, m'a parlé, parce que cette prière, elle suit l'objectif de notre affermissement spirituel. Et je trouve que c'est de plus en plus pertinent. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, on ne sait pas comment l'avènement du Seigneur va se mettre en place. Mais on sait que ça pourrait ne pas être simple. Aussi, je cautionne la prière, je l'appuie, je l'encourage, je dis, mais Seigneur, oui, en effet, affermis-nous. Affermis-nous par rapport aux événements à venir, affermis-nous par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre. Et elle résonne, cette prière. Alors cette prière, nous la trouvons dans Éphésiens chapitre 3, nous allons la lire. Bien souvent, cette prière, nous en connaissons des morceaux, mais il est très intéressant de la regarder dans sa globalité et vous allez comprendre pourquoi. Voici ce que nous dit cette prière et je me suis amusé à souligner les choses un peu comme dans votre Bible. Peut-être vous avez fait ça et vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait. Verset 14, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles des cieux et sur la terre. » Bon, il dit beaucoup de choses pour dire simplement une chose qu'il prie. Hein. Voilà, hein, pas plus. C'est Paul, ça, clairement. Verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Voilà le socle de sa prière. Voilà ce pourquoi Paul prie. Il prie pour notre affermissement, que soyons puissamment fortifié par son esprit, par le travail du Saint-Esprit en nous, que notre homme intérieur soit affermi. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, il poursuit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors non seulement Paul prie pour que nous soyons affermis spirituellement, et je crois que c'est clairement, mais il nous donne des axes d'évolution spirituelle, il nous donne des axes de prière. Et le premier axe de prière, c'est l'amour de Dieu. Et il le définit magnifiquement. Il dit, voilà, mais que votre compréhension de l'amour de Dieu évolue, grandisse, que vous compreniez toujours plus ce qu'est l'amour de Dieu. Et il le définit, c'est juste magnifique, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, soyons honnêtes, que notre affermissement passera aussi par une meilleure compréhension, de réaliser toujours plus l'amour de Dieu pour nous. Et c'est la base. Nous venons à Christ bien souvent, peut-être au départ parce qu'il accomplit, il s'est manifesté par sa puissance, mais ce qui nous amène à le suivre, c'est son amour pour nous. Dieu nous a tant aimés, manifesté au travers de l'amour de Christ sur la croix. Et c'est vraiment ça la base de notre foi. C'est sur cela que notre foi doit être basée. Il nous a aimés, parce qu'il nous a aimés, nous voulons l'aimer en retour. Et c'est le moteur de notre avancée spirituelle. C'est parce que nous aimons Dieu que nous le suivons. Aussi, au plus nous comprendrons l'amour et les dimensions qui sont associées à l'amour de Dieu, au plus notre foi va être enracinée, va être consolidée. Et j'aime tellement le texte parce que Paul le dit quelque part, il le dit. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que notre amour de Dieu soit alimenté par une meilleure compréhension de l'amour de Dieu. Et c'est une prière qu'on pourrait faire ce matin. Seigneur, aide-moi toujours plus à t'aimer, en comprenant toujours plus ce que tu as fait pour moi. Que ton amour prenne la pleine dimension qu'il doit avoir en moi, pour que je puisse toujours plus t'aimer, afin que mon être intérieur soit affermi. Gloire à Dieu. Paul n'en reste pas là. Et ça serait déjà tout un message en soi si je devais prolonger et continuer. Paul va plus loin. Et non seulement il veut que notre amour pour lui grandisse, afin de nous affermir, mais il donne un autre axe de réflexion, un autre axe de prière. Oui, il prie pour que l'amour grandisse en nous, mais il n'en reste pas là. Verset 20. Et il est dans cette logique de notre affermissement intérieur. Verset 20, il dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et disons, et il termine, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Paul prie pour que nous ayons une meilleure révélation de son amour, pour que nous l'aimions toujours plus. Amen. Mais il prie aussi dans une autre direction, que nous puissions réaliser toujours plus ce qu'il peut faire en nous. Waouh! Et Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il n'est pas dans une « Ah, Dieu peut tellement faire mieux !»« Dieu peut tellement faire plus !» Paul emploie un mot juste extraordinaire, « infiniment ». Waouh ! Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, disons, prions, imaginons. Infini, c'est un mot qui dépasse notre compréhension. Nous sommes des êtres finis. Nous avons un commencement, nous avons une fin. Alors quand on parle d'infini, ça va bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ça va bien au-delà de ce que nous pouvons appréhender. Dieu est un Dieu infini. Aussi, ça fait partie des caractéristiques que nous avons du mal à comprendre, appréhender. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre intelligence. Alors quand Paul parle de cet infini, Dieu peut faire par sa puissance en toi infiniment au-delà de ce que tu penses, tu dis, tu crois. Waouh ! Moi, ça m'a... Oh, je suis encouragé d'un verset comme ça. Je ne sais pas, des fois, quand nous passons par certains temps, par des difficultés, nous tombons sur ce verset. C'est le verset du jour. Et là, on dit, « Waouh, merci Seigneur, ça fait du bien. » Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça, mais des fois, Dieu nous parle. Et il nous parle dans des moments difficiles. Et puis, il nous sort un verset comme ça. Et là, on est encouragé, on est fortifié. On dit, « Ah, merci Seigneur, tu m'as parlé. Tu veux faire tellement plus que ce que je peux imaginer. Penser infiniment au-delà. » Oui. Sauf que Paul prie pour ça. Et s'il prie pour ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est tout à fait lié à notre capacité d'entendement. Nous sommes des êtres finis. Alors quand Paul nous parle d'infiniment au-delà, on a l'impression qu'il y a un plafond au-dessus de nos têtes. Et dans le concret de ce que nous vivons face à nos difficultés, face à nos épreuves, quand nous prions, si peut-être on a dans l'idée de prier pour un château, « Seigneur, donne-moi un château », ça finit par devenir une caravane. Non ? Hein ? Dieu nous appelle à vivre l'infiniment, et puis au fur et à mesure, peut-être dans notre cœur, ça se restreint, ça devient tout petit. Ça se confronte à notre foi, et on pourrait dire ce matin, mais qu'est-ce que je manque de foi ? Mais est-ce si simple de dire que par moment nous manquons de foi ? Je trouve ça un peu réducteur en soi. Oui, en effet, peut-être il y a un manque de foi. Oui, en effet, il y a peut-être de l'incrédulité dans notre cœur, mais est-ce simplement cela ? Par moments, on a envie de vivre l'infiniment au-delà, mais dans notre prière, dans notre imagination, dans ce que l'on voudrait vivre avec Dieu, on est comme retenu, on a comme un élastique, vous savez, qui nous retient derrière. Alors, on veut bien marcher vers l'infiniment, on veut bien imaginer, on veut bien vivre ça, mais quelque part, dans les faits, dans notre prière, dans nos actions, dans notre imagination, on en est tellement loin. On est tellement infiniment en deçà. Ouais ? Tellement infiniment en deçà de ce que Dieu voudrait que nous vivions. Parce que des fois, nous n'osons pas. Combien c'est difficile d'oser demander certaines choses à Dieu. Et alors que Dieu nous appelle et nous le dit, je peux faire en toi, par ma puissance agissante en toi, infiniment au-delà de ce que tu penses, et tu dis, nous vivons l'infiniment en deçà. Comme retenu spirituellement par un élastique, ce matin je vais parler de chaînes. De chaînes qui nous retiennent, de chaînes qui nous empêchent d'oser, qui nous empêchent d'imaginer, qui nous empêchent de prier, même de demander. Alors oui, on pourrait parler d'incrédulité, mais est-ce si simple ? Parce que quand on regarde les choses attentivement, lorsqu'on réfléchit dans nos cœurs, est-ce simplement de l'incrédulité ? Est-ce simplement le fait de ne pas avoir suffisamment de foi ? Et d'en arriver comme Paul, comme les disciples ont pu dire à un moment donné, « Oh Seigneur, mais augmente notre foi !» Après avoir réfléchi à cela, j'ai identifié trois chaînes. Ce n'est pas une chaîne, ce n'est pas un message exhaustif. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive ce matin de ce qui peut nous empêcher de vivre l'infiniment au-delà, ou de le penser, ou de le prier. Mais j'aimerais partager ce matin trois chaînes. Trois chaînes qui, par moments, dans notre vie spirituelle, vont nous bloquer. Bloquer dans l'infiniment au-delà, dans ce que Dieu voudrait pour nous, dans ce qu'il imagine pour nous, dans ce qu'il voudrait entendre de nous. Nous n'osons pas, nous ne prononçons pas, même nous avons peur de dire certaines choses. Alors oui, je comprends mieux la prière de Paul quand il dit « Mais que ton être intérieur soit affermi par une vision élargie de ce que Dieu peut faire dans ta vie, au travers de sa puissance qui va se manifester en toi, qui va au-delà de ce que tu penses, imagines, dis, proclames dans ta vie. » La première chaîne que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est notre manque d'ambition spirituelle. Alors de suite, quand on parle d'ambition, d'un suite là, on se dit « Waouh, c'est très négatif, c'est le rejet, c'est l'orgueil, enfin, l'ambition, c'est vraiment pas bien. » Oui, l'ambition personnelle. Mais là, je suis en train de parler d'ambition spirituelle et j'aimerais peut-être définir ce qu'est l'ambition spirituelle. L'ambition spirituelle, c'est ce que Dieu ambitionne pour nous. J'aimerais prendre un texte, c'est 2 Rois chapitre 13, verset 16. Le contexte est le suivant, nous avons un roi qui s'appelle Joas, un roi d'Israël, qui n'a pas été un bon roi, manifestement, comme la plupart des rois d'Israël. Et Joas vient au lit d'Élisée, qui est en train de mourir. Et Joas vient chercher, en quelque sorte, un espèce d'héritage spirituel, les dernières paroles d'un homme de Dieu mourant. Et alors qu'il s'approche de serviteur de Dieu, d'Élisée, qui est sur son lit, qui est en train de mourir, Joas, quelque part, il vient chercher... Est-ce que tu as quelque chose à me dire de la part de Dieu ? Et voilà, Élisée va commencer à parler de la part de Dieu pour ce roi. Et voici ce qu'il nous est dit, verset 16. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Verset 17, il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Alors permettez-moi de sortir de notre contexte actuel. Hein. La Syrie, ça ne va pas bien. Enfin bon, bref, on est 3000 ans avant. Donc quand Dieu parle d'exterminer la Syrie, on est dans un autre contexte. Hein, d'accord ? Bon, je ferme la parenthèse. Dieu a de l'ambition pour nous comme il en avait pour ce roi Joas. Une ambition extraordinaire. Dieu ne voulait pas simplement se contenter de donner à ce roi de vivre quelques victoires. Dieu ambitionnait pour Joas une victoire totale, sans appel. Une victoire où Dieu allait manifester sa puissance et où il allait libérer son peuple. La Syrie, à cette époque-là, est ennemie d'Israël, est un problème pour Israël. D'ailleurs, la Syrie avait conquis plusieurs villes. Et quelque part, il se trouvait qu'une partie d'Israël était assujettie à la Syrie, devait payer un tribut. Et c'était une forme d'esclavage pour Israël. Et Israël était sous le joug de la Syrie. Et quand Dieu voit son peuple dans la situation dans laquelle il est, le désir de Dieu, le cri de Dieu pour son peuple, moi je veux que vous soyez libres, et pas seulement libres, je veux que votre ennemi soit vaincu totalement, définitivement. Et le texte va très fort puisqu'il parle d'extermination. Dieu est ambitieux pour nous. Dieu a de l'ambition pour ta vie. Dieu a de l'ambition pour tes projets. Dieu a de l'ambition et il ne voit pas dans la demi-mesure. Amen. Vous êtes là ? Dieu n'est pas dans la demi-mesure. Quand il envisage les choses, quand il voit les choses, quand il regarde nos vies, il n'est pas là à dire, ben, écoute, tu vas gagner quelques victoires. Et puis, non, il voit grand. Moi, je suis depuis que je suis père, je vois mes filles et je rentre dans cette dynamique de père. Souvent, on dit que Dieu nous ressemble. Non, c'est nous qui ressemblons à Dieu. Hein. Dieu est un père. Et quand je regarde mes filles, j'ambitionne des choses pour elles. Je rêve pour elle, j'ai des désirs pour elle. Et je vois dans ce que je vis en tant que père, le cœur de Dieu pour nous. Et Dieu est un père et quand il voit ta vie, il ambitionne des choses. Il rêve pour toi. Et il ne se limite pas à certaines frontières, à certaines choses. Non, il voit grand. Amen. Maintenant, que faisons-nous de ce que Dieu ambitionne pour nos vies? On lit la suite, verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. Verset 19, l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il lui dit, mais il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. Je ne vais pas m'étendre sur l'aspect prophétique qui est en lien avec ce passage. Je vais directement aller au fait. Qu'est-ce qu'il va se passer? Nous retrouvons Joas des années plus tard, et c'est le verset suivant qui va apparaître. Et là, Joas, voici ce qu'il nous est dit dans 2 Rois, chapitre 13, on est dans le même chapitre, verset 13, verset 25. Joas, fils Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils d'Azaël, les villes enlevées par Azaël à Joachaz, son père pendant la guerre. Joas les battit trois fois, et il recouvra les villes d'Israël. Dieu est dans une perspective pour Joas de tout gagner, d'exterminer. Voilà l'ambition qu'a Dieu pour ce roi. Et dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? Ce roi va juste aller chercher les conquêtes que son père avait perdues préalablement. Et il va se limiter à ça. Et même, j'ai employé un mot, il va se contenter de cela. Et je comprends un peu la frustration d'Élisée, qui lui est dans une perspective prophétique et qui va être capable de dire à ce roi, si on peut revenir en arrière, voici ce qu'il nous est dit au verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il lui dit, mais il fallait frapper cinq ou six fois. Je suis convaincu, mes frères et sœurs, que par rapport à l'ambition que Dieu a pour nos vies, il doit y avoir une frustration des fois dans le cœur de Dieu. Manifestée peut-être par un attrissement du Saint-Esprit en nous. Manifesté par le fait que Dieu nous dit, mais il fallait frapper cinq ou six fois, il fallait aller au bout de ce que j'attendais de toi. Et ce roi va se limiter à trois victoires. Il va frapper trois fois, mais ça va se manifester dans le temps par trois victoires. Alors que ce que Dieu avait pour cet homme, ce que Dieu ambitionnait pour cet homme, c'était une victoire totale. Et il va se contenter de trois victoires. Et ce roi est dans une dynamique de victoire, il enchaîne trois victoires d'affilée. Dieu lui donne le potentiel d'aller vaincre, Dieu lui donne la force, Dieu lui donne l'autorité, Dieu lui donne un ascendant et à la fois spirituel, mais à la fois dans les forces armées pour anéantir la Syrie. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. On ne sait pas et on ne connaît pas les raisons qui ont poussé cet homme à s'arrêter. La seule chose, c'est que Dieu ambitionnait des choses pour lui et lui, il va se contenter de trois victoires. Je parle de contentement. Et souvent, lorsque j'ai lu, je pouvais lire plein de choses sur le contentement spirituel. Et le contentement est une bonne chose, mes frères et sœurs. Et nous sommes appelés à vivre un contentement spirituel. Vivre avec ce que nous avons. Vivre avec ce que Dieu nous donne. Sauf que c'est comme l'ambition. Qu'est-ce qui se trouve par moment derrière notre contentement? Et des fois, ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Des fois, derrière notre contentement se cachent nos propres limites, notre manque de consécration, notre manque de persévérance. Alors oui, on avance l'idée que nous nous contentons de ce que nous avons, mais derrière se cache aussi peut-être de la paresse. Se cache une volonté de ne pas s'investir plus, cache aussi certaines faiblesses spirituelles. Alors oui, c'est bien de vivre le contentement, sauf qu'il y a un faux contentement spirituel. Et des fois, on arbore une forme de contentement spirituel, mais il cache derrière d'autres choses qui ne sont pas le fruit de ce que Dieu veut que nous vivions. Et n'oublions pas une réalité spirituelle, c'est que le péché, ce n'est pas faire mal. Le péché, c'est manquer la cible. Et au travers du contentement, par moment que nous avons, mes amis, nous péchons, clairement. Nous parlons souvent de l'ambition, et tout à l'heure je disais, mais l'ambition, ce n'est pas terrible. Finalement, c'est peut-être le reflet de l'orgueil. Oui, sauf que, permettez-moi d'aller plus loin dans cette réflexion de ce que peut être l'ambition, parce que je parlais d'ambition spirituelle. Dieu a de l'ambition pour nous. Ok. Et des fois, nous avons une mauvaise image de l'ambition. Mais j'aimerais vous dire que, par moments, ne pas vivre l'ambition que Dieu a pour nous, c'est vivre une forme d'orgueil. Et je vais étayer les choses et permettez-moi d'aller plus loin. Un manque d'ambition spirituelle peut être en effet une forme d'orgueil. Ceci peut se traduire par une forme de contentement, oui. Mais dans notre cœur se cache par moment une autre ambition qui est une ambition personnelle. Je vais étayer la réflexion parce que je me suis rendu compte de ça, c'est que par moment Dieu met sur notre cœur et peut mettre sur notre cœur et peut partager avec nous les ambitions qu'il a pour nos vies. Seulement, au fond de nous, vient se confronter une autre ambition. L'ambition de notre cœur, l'ambition de notre chair. Et bien souvent, nous nous cachons derrière un contentement en disant « Ah non Seigneur !» Alors que c'est une autre ambition qui était en train de s'exprimer. Mais ce n'est pas celle que Dieu veut, c'est la nôtre qui s'exprime. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nous avons Moïse, Dieu l'appelle dans le désert. Un appel magnifique, Dieu l'interpelle, buisson ardent, Dieu met le paquet pour que cet homme, Moïse, rentre dans son plan. Et quel plan Dieu a pour lui, quelle destinée, quelle vision il a, quelle ambition Dieu a pour Moïse. Et peut-être quelque part, Moïse n'a pas forcément idée, mais qu'est-ce que Dieu voit? Il voit la mer rouge, il voit les 10 plaies, mais il voit un accomplissement de promesses, il voit en Moïse le libérateur. Qu'est-ce que voit Moïse, lui? Lui, il ne voit pas la mer rouge. Lui, il voit la ferme, les gosses, la maison, et tout ça bien tranquillement avec Madian. Son ambition personnelle vient se confronter à l'ambition que Dieu a pour lui. Vous me suivez? Aussi, par moments, notre manque d'ambition spirituelle s'explique par en nous une ambition qui vient contrarier l'ambition qu'a Dieu pour nos vies. Aussi, par moments, alors que nous pourrions penser que l'ambition est le fruit de notre orgueil, je dirais que notre manque d'ambition spirituelle est aussi, par moments, dans nos vies, le fruit de l'orgueil. Parce que quelque part, c'est ce que nous voulons vivre qui prime au lieu de vivre ce que Dieu veut que nous vivions pour lui. Je nous mets en garde sur le fond, sur ce qui se passe dans notre cœur. Je nous mets en garde. Et il faut analyser nos ambitions pour comprendre quelles sont les racines profondes. Est-ce que c'est une ambition qui vient de Dieu ou est-ce que c'est une ambition manifestée par notre chair ? Pour comprendre là où Dieu nous veut, et ce que Dieu veut faire dans nos vies, et ce que Dieu veut faire au travers de nos vies. Aussi, la prière que nous pourrions faire ce matin pourrait être stimulée par notre ambition personnelle, mais pas l'ambition que Dieu a pour nos vies. Et ton ambition va limiter ta prière, va t'amener à voir les choses en deçà de ce que Dieu veut pour ta vie. Et par moments, on peut prier et ne pas trouver de réponse, parce que Dieu nous dit « Je n'ambitionne pas ça pour ta vie ». Commence à rentrer dans la destinée que j'ai pour toi. Commence à rentrer dans ce que je veux pour toi, pour que tu vives l'infiniment au-delà, pas l'infiniment en deçà. Oui. Et souvent, on est confronté à des murs dans nos prières parce que nos motivations, nos désirs personnels ne sont pas ce que Dieu veut. Aussi, peut-être une prière pourrait sortir de notre cœur. Seigneur, je veux vivre ton ambition spirituelle pour ma vie. Je ne veux pas que ce soit le fruit de mon désir, je veux que ce soit ton ambition. Et je ne veux pas me contenter. Je ne veux pas me limiter sur la base de mes attentes personnelles. Mais je veux voir ce que tu as pour ma vie, pour vivre l'infiniment au-delà. Amen. Je veux vivre l'infiniment au-delà. Première chaîne qui nous retient, notre manque d'ambition spirituelle. Et finalement, derrière notre manque d'ambition spirituelle se cache notre propre ambition personnelle qui vient nous freiner et nous empêcher de rentrer dans l'infiniment au-delà de Dieu. J'aimerais partager une autre chaîne ce matin, c'est la chaîne de la résignation. La chaîne de la résignation, nous la trouvons dans un texte magnifique. C'est une femme tsunamite qui va bénir le prophète Élisée. Et cette femme va tellement le bénir, va lui offrir un logis, va lui offrir plein de choses, que le prophète Élisée va se retrouver dans la situation suivante. Je veux bénir cette femme. Je veux la bénir. Aussi, Élisée va voir son serviteur et il va discuter avec Géasi. Et Élisée va dire à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi, au roi, au chef des armées? Et voici la réponse de cette femme. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un langage codé. Élisée lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle répond, j'habite au milieu de mon peuple. Vous savez, des fois, il y a des codes secrets. Vous savez, on se transmet des codes au travers de la radio. J'habite au milieu de mon peuple. Je répète, j'habite au milieu de mon peuple. Bien reçu, Suna, bien reçu. Bon, très bien. Alors, il a fallu chercher pour comprendre ce qu'elle a voulu dire, cette femme. Hein, parce que très honnêtement, de prime abord, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Et en cherchant, c'est une forme polie de dire à Élisée, écoute, je vis au milieu de mon peuple et tout se passe bien, je suis épanouie, je suis heureuse et tout va bien. Et merci Seigneur parce que quelque part je vis dans l'abondance et je vis au milieu de mon peuple et tout va très bien. Alors quand on comprend la réponse de cette femme à Élisée, on comprend aussi pourquoi Élisée va reposer la question. Parce que quelque part elle dit qu'elle est comblée et Élisée est embêtée parce qu'il veut la bénir. Oui, seulement cette femme ne dit pas tout. Et n'explique pas tout, n'exprime pas tout. Et dans sa vie, il y a une blessure secrète, une blessure qui est en lien avec le fait qu'elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et peut-être la première prière que j'aurais faite à sa place aurait été de dire, écoute Seigneur, j'ai tout, mais il me manque une chose. J'aimerais être maman, j'aimerais pouvoir expérimenter ça. Elle ne le fait pas. Le prophète, l'homme de Dieu, lui demande ce que Dieu peut faire, ce que Dieu pourrait faire dans sa vie. Elle ne le mentionne pas. Ouais, je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle n'en parle pas? Pourquoi? Et quelque part, n'y voyait pas non plus dans son cœur de l'incrédulité, ne voyait pas non plus dans son cœur un contentement, mais elle n'essaie pas de cacher les choses. Tout le monde sait dans le village qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, même Géasi le sait. Et quelque part, je me suis dit, mais pourquoi elle n'en parle pas? Pourquoi elle n'exprime pas? Alors du coup, Élisée se retrouve dans la situation, il va revoir son serviteur Géasi, il va lui dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour elle? Il n'y a pas quelque chose à faire. Alors Géasi va lui dire, en effet, verset 14, Géasi répondit, mais elle ne peut point avoir d'enfant et son mari est vieux. Alors Élisée dit à Géasi, appelle-la Géasi, il appela et elle se présenta à la porte. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et moi, quand j'en reste là, je me suis dit, ouais, cette femme va exploser de joie. Ah, Dieu a vu au-delà de mes besoins. Merci Seigneur. Ah, combien Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Ouais, regardons. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Bon, déjà qu'on ne comprenait pas forcément ce qu'elle voulait dire en « j'habite au milieu de mon peuple », là, ça devient de plus en plus flou. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Et clairement, quand on voit la réaction de cette femme par rapport à un besoin profond, c'était quelque chose qui était difficile à vivre pour elle. C'était une opprobre, c'était une malédiction que de ne pas avoir d'enfant. Et quelque part, Dieu qui répond à cette prière, on aurait dû voir une femme qui bondissait, qui se réjouissait. Non! Même à la limite, on se dit « mais... t'as pas pire à me proposer, Seigneur ?» Et là, quelque part, j'étais quelque peu déconcerté de voir la réaction de cette femme, sauf que la Bible ne nous dit pas quelque chose. La Bible ne nous dit pas le contexte. La Bible ne nous dit pas depuis combien d'années cette femme a pleuré pour avoir un enfant. La Bible ne nous dit pas combien d'années cette femme a prié. Parce que peut-être au départ, lorsqu'elle s'est mariée, elle s'est bien rendue compte qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, vous savez, comme toute personne normale, comme toute personne qui suit Christ, qui suit Jésus, la première chose que nous faisons face à nos incapacités, nous prions et nous demandons à Dieu, « Seigneur, ouvre les écluses des cieux, que je puisse avoir un enfant !» Sauf que cette prière, on peut la faire une année, on peut la faire deux années, trois années, quatre années. On ne sait pas combien de temps cette femme a fait cette prière. On n'a pas l'idée du timing que ça a pris, et peut-être au fur et à mesure des années. Elle est peut-être arrivée à une conclusion que ce n'était peut-être pas pour elle. Et elle est tombée dans ce que moi j'appelle une chaîne de résignation. Parce que quand on ne voit pas nos prières se réaliser, ben vous savez, au lieu de se faire mal par moment, il y a des prières qu'on préfère oublier, enterrer. Et c'est ce que cette femme va faire. La Bible ne nous dit pas combien de temps elle a prié, mais pour en arriver là où elle en était, quand Élisée exhume une prière qu'elle a décidé d'enterrer parce que trop douloureux pour elle, sa réaction est à la proportion de la souffrance qu'elle vit intérieurement. Ah non ! Entre guillemets, elle est en train de dire à Élisée, cette prière, je l'ai faite pendant des années. Cette prière, tu la ressors, elle me fait mal. Parce que je n'ai jamais vu l'accomplissement de cette prière. Elle est douloureuse, cette prière. Je n'en veux pas. Je l'ai enterrée parce qu'elle me faisait trop mal. Peut-être ce matin, il y a une prière dans ton cœur que tu as décidé d'enterrer parce qu'elle fait mal. Il y a des prières qu'on enterre parce qu'elles font mal, et on préfère les laisser dans un trou plutôt que les ressortir quand Dieu nous dit à un moment donné, que veux-tu ? À quoi aspires-tu ? Je ne suis pas en train de dire que Dieu va exhumer toutes nos prières. Mais Dieu, peut-être par son Esprit Saint, et comprenez ce que Dieu est en train de faire, et je reprends la prière de Paul dans la dimension dans laquelle il veut nous pousser, il veut nous pousser dans l'infiniment au-delà par son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut-être est en train de travailler ton cœur, et t'es peut-être un peu comme la tsunamite aujourd'hui, où je, par la puissance du Saint-Esprit, je le crois, est en train de soulever des prières que tu as exhumées, et non, tu ne veux pas la sortir, et non, tu veux la laisser enterrer, et non, tu préfères qu'elle soit morte plutôt qu'elle t'amène encore sur le terrain éventuellement de la déception, parce que c'est ce que dit cette femme, tu ne vas pas encore tromper ta servante. Et il y a des prières qui sont tellement dures, tellement lourdes de sens, tellement douloureuses, qu'on préfère les voir enterrer, mourir, et quand Dieu essaie de les exhumer dans nos vies pour nous dire « c'est le ton temps, c'est ton moment !» On préfère dire non. Ah non Seigneur, fais pas ça. Ça fait trop mal. J'ai pas d'explication au timing de Dieu ce matin. Seule explication que je peux donner, c'est que je sais ce que Dieu fait. Je sais que Dieu est sage, je sais que dans son infinie sagesse qui dépasse de loin la nôtre, il a une compréhension des temps et du timing pour nos vies. Aussi, si Dieu a permis que cette prière soit exhumée à ce moment-là précis dans sa vie, c'est qu'il avait une bonne raison. Aussi, je veux croire que le Saint-Esprit est peut-être en train d'exhumer une prière de ta vie. Une prière qui est peut-être est devenue au fur et à mesure des années une prière douloureuse, au point que tu as fini par l'enterrer et être rentré dans cette dynamique d'une chaîne de résignation. Oui. Sauf que pour cette femme, c'était le timing de vivre cette prière. Et ce soir, dans ton cœur, il est peut-être temps, et c'est peut-être le timing de Dieu, de voir enfin l'accomplissement de la prière que tu as enterrée. Je n'explique pas le timing de Dieu ce matin. Mais peut-être si le Saint-Esprit est en train d'interpeller ton cœur et si ta réaction est aussi virulente au fond de toi, comme cette tsunami t'a pu dire « Non, ne va pas chercher cette prière en moi. » C'est peut-être qu'il est temps de voir l'accomplissement de ce que Dieu a pour ta vie. Aussi si cette prière, et comprenez la dynamique quand Paul prie, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et disons. Il est peut-être temps pour toi de rentrer dans cette dynamique. Ce que tu ne penses plus, ce que tu ne veux plus imaginer, ce que tu ne veux plus prier, il est peut-être temps pour toi de vivre l'infiniment au-delà de Dieu, au-delà de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. J'aimerais vous parler d'une troisième chaîne. Et cette fois, ça sera... Dans un autre contexte, cette fois-ci, ça sera dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 3, verset 1er. C'est Pierre et Jean qui montent au temple. Et Pierre et Jean sont dans une dynamique de la Pentecôte. Ils vivent la Pentecôte depuis quelques jours. C'est une cinquantaine de jours après la mort, mais la résurrection de Christ. Nous sommes dans un mouchoir de poche au niveau des événements. Et Pierre et Jean montent au temple ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il donnât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. On va rester là quelques instants. Dans la vie de cet homme, qui nous est décrit donc boiteux et mendiant, je vois deux tragédies. Peut-être on pourrait n'en voir qu'une, mais ce matin, j'aimerais mettre en avant dans la vie de cet homme deux tragédies. La première tragédie, c'est ce qu'il vit physiquement. Il est boiteux et mendiant. Et pour moi, c'est une tragédie. Ce qu'il vit dans son corps, la souffrance que cela peut procurer et les limites physiques que ça a mené dans sa vie. Et c'est bien là la plus grande tragédie de sa vie. Et qui plus est, il nous est dit qu'il était boiteux de naissance. Donc c'est vous dire, il n'a jamais pu marcher. Mais la deuxième tragédie que je vois dans la vie de cet homme, c'est ce qu'il a construit autour de son handicap. Et quelque part, c'est ça que je trouve tragique, parce que ça se résume à un verset. Sa vie va se résumer à un verset. Le verset que nous avons lu, oui, certes, il est boiteux de naissance, mais voilà, qu'on portait et qu'on plaçait, vous lisez avec moi là, tous les jours. Tous les jours de sa vie, ça va être ça. On ne sait pas à partir de quel âge cet homme a commencé à venir à la porte Labelle. Il ne nous est pas dit ça. Mais par contre, nous connaissons son âge, on sait qu'il a 40 ans. Et pendant une grande partie de sa vie, ça va être ça. Pendant une grande partie de sa vie va se limiter à se lever le matin, à être transporté à la porte Labelle, à être placé là, à faire la manche pendant toute la journée et à rentrer le soir. Toute sa vie, pendant près de 30 ans, on ne sait pas à partir du quand il a commencé à mendier à cette porte Labelle. Et quelque part, je me dis, mais c'est tragique. Non seulement il vit une tragédie dans son corps, mais sa vie, c'est une tragédie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Je pense qu'il pouvait faire plus. Seulement, sa vie va s'enfermer là-dedans. Tous les matins, il se lève, on l'amène, on le ramène. Et pendant 30 ans de sa vie, ça va se limiter à ça. Il va tomber dans ce que moi, j'appelle une forme, et c'est ce que j'ai marqué de routine. Il va rentrer dans une routine, dans sa vie, ce ne va se limiter à ça. Il ne va voir que cela. Pire, le texte nous exprime le fait qu'il n'a jamais connu autre chose. Il est né comme ça. Aussi, il n'a jamais pu marcher. Il n'a jamais pu goûter à autre chose que son handicap. Voilà son monde et voilà à quoi son monde est limité. Enfermé dans une routine, dans quelque chose qui est limitatif. Et je dis ça parce que la tragédie dans sa vie va aller au-delà de ça. Parce que la Bible nous dit que Jésus allait régulièrement au temple. Comprenez, si cet homme était là tous les jours, il a forcément dû croiser à un moment donné Jésus. Forcément, Jésus allait régulièrement au temple. Jésus montait régulièrement au temple. Même, il y a un passage, et c'est dans Matthieu chapitre 21, on va le lire dans quelques instants, où il nous est dit que voilà ce que Jésus va faire. Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il dit... Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Moi, j'aimerais vous dire qu'un gars comme cet homme qui allait tous les jours au temple, il allait tellement tous les jours au temple qu'il était connu de tout le monde. Tous les sacrificateurs le connaissaient, les lévites, tous ceux qui fréquentaient le temple savaient, connaissaient cet homme. Il était là depuis tellement d'années qu'il faisait partie du décor ambiant. Aussi, je peux vous dire que tout allait très vite. Quand Jésus vient au temple et qu'il renverse les tables et qu'il fait voler en éclats tout ce qui est organisé, une espèce de marché improvisé que Jésus ne peut cautionner parce que cette maison, c'est une maison de prière. Jésus va tout renverser. Il va mettre tout en dessus dessous. Et je peux vous dire que le boiteux à l'entrée de la porte de Labelle a dû entendre ça. A dû entendre parler de ce bazar que Jésus va mettre. Un saint bazar, certes, mais quelque part, il ne pouvait pas passer à côté de la présence de Jésus dans le temple. Il ne pouvait pas faire abstraction de ce qui se passait. Il ne pouvait pas faire abstraction de la personne de Jésus. Il ne pouvait pas être au courant que Jésus est rentré dans le temple. Il ne pouvait pas être au courant du reste aussi. Parce que non seulement Jésus va renverser les tables, mais regardez ce qu'il est dit après, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est... Je vais vous dire une vérité là sur ce texte, parce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué là-dedans. C'est que les boiteux, généralement, étaient tous assemblés au même endroit. Ceux qui avaient des problèmes physiques ne pouvaient pas rentrer dans le temple, donc ils étaient arrêtés. Ils étaient tous rassemblés à un même endroit. Et quelque part, je me suis dit, il y a certainement des collègues de cet homme, des hommes, avec qui il partageait son quotidien, des hommes qu'il connaissait depuis des années, qu'il fréquentait depuis des années. Il y a certainement des boiteux avec lui, des aveugles. Ils étaient tous au même endroit, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils attendaient tous pour vivre la même chose, ils attendaient l'aumône. Quand Jésus passe, Il y en a certains de ses amis qui vont aller voir Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit, ils s'approchèrent de lui, s'approchèrent de Jésus dans le temple. Et là, Jésus les a guéris. Et là, moi, je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas allé, lui? Pourquoi il n'a pas fait la démarche d'y aller? Pourquoi cet homme qui est là, assis depuis des années, et qui voit ses amis être guéris? Vous imaginez la chose? Ses amis sont boiteux, ils rentrent dans le temple, ils vont voir Jésus, Jésus les guérit, ils repartent en marchant. Pourquoi lui, à un moment donné, ne s'est pas dit, et pour moi? Peut-être pour moi. Et vous pourriez me dire, mais il ne pouvait pas marcher, certes, mais il avait quand même des gens qui l'amenaient au temple tous les jours et qui le ramenaient tous les jours. Il n'était pas sans moyens, sans capacité. Il aurait pu y aller. S'il avait voulu, il aurait pu y aller. Alors vous allez me dire, ah, mais cet homme a manqué de foi. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas le problème. On pourrait accabler cet homme de plein de choses et de plein de travers qui justifient le fait qu'il n'est pas allé comme les autres chercher la prière de Jésus pour sa vie. Sauf que ça serait oublier le contexte dans lequel il est. Il est dans une prison de routine, une prison d'habitude. Dernièrement, j'ai eu Virginie au téléphone. Virginie, c'est une jeune femme qui était de notre église et qui est partie au Cambodge. Elle fait un travail missionnaire là-bas. Et je l'ai eu en échange et elle m'expliquait un petit peu son quotidien et elle m'expliquait ce qu'elle vivait. Et elle me partageait le fait que la semaine dernière, elle est allée dans des bidonvilles. Je trouvais ça très intéressant parce que elle m'expliquait le travail et l'une des missions qu'ils font au Cambodge, et l'une des missions, c'est la réhabilitation. Et en particulier des familles qui sont dans les bidonvilles, qui vivent dans la saleté, dans la misère, dans la maladie, dans tout ce qui... Et il y a tout un projet de réhabilitation de ces familles pour leur offrir un toit, pour offrir une douche, pour qu'ils vivent mieux. Et elle m'expliquait, Pierre, on allait voir les gens, on leur parlait du projet, on leur disait, voilà ce que peut être votre vie, voilà ce qu'on peut faire, voici tous les projets qui sont autour. Et alors qu'elle m'expliquait ça, elle me dit, mais Pierre, je suis tellement déçu. Parce que la plupart me disaient non. Non. Vous savez, quand on est enfermé dans une routine, quand on est enfermé dans notre quotidien, c'est ce qui nous rassure. Alors c'est peut-être anormal pour nous, mais c'est, pour eux, c'est leur normalité. Et quand je parle de normalité, c'est ce qui les rassure. Et le fait de vivre dans ce contexte-là, c'est ce qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas autre chose. Et cet homme n'a jamais connu autre chose. Il aurait pu marcher avant et perdre ses jambes. Mais s'il avait fait ça, il aurait connu, il aurait su ce que c'est que marcher. Il aurait pu se projeter et dire, mais moi je veux remarcher. Mais lui, il n'a jamais connu autre chose que ça. Il a été paralysé toute sa vie. Et il est enfermé dans une prison d'habitude, de routine, qui l'empêche de faire une autre prière. Et la seule prière qu'il est capable de faire, c'est la prière qu'il a faite depuis toujours. Parce que son schéma, son emprisonnement spirituel l'empêche d'élever une prière supérieure à sa condition. L'empêche de formuler une prière qui peut bouleverser alors sa seule prière. C'est ce qu'il a toujours connu, c'est ce qu'il a toujours fait. En allant au temple, peut-être ce matin-là, il n'a pas demandé de retrouver des jambes. Seigneur, si tu pouvais me donner de l'or et de l'argent. Et se tenant devant Dieu, peut-être très sincèrement, la seule prière qu'il était capable de faire, c'était « Aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais de l'or et de l'argent. » En montant au temple, en allant dans la présence de Dieu, son contexte spirituel, la prison spirituelle dans laquelle elle est l'enferme dans une prière qui ne dépasse pas le plafond. Aussi, par moments, Dieu va répondre à sa prière, mais Dieu ne va pas répondre. Mais dans le cœur de Dieu, il y a comme une frustration de se dire, tu demandes de l'or et de l'argent, mais moi je veux te donner des jambes. Seulement, il n'est pas capable de faire cette prière. Et pas parce qu'il manque de foi. Mais parce que son esprit est enfermé, il ne peut pas. C'est sa tragédie. Il ne peut pas demander autre chose. Et même quand il voit ses amis être guéris, pour lui, ce n'est pas un besoin. Comprenez, avoir un besoin, il faut que dans notre vie, ça se manifeste. Or, lui, il n'avait pas besoin de marcher parce que sa normalité, c'était ce qu'il vivait. Et il n'en sortait pas. Aussi, son seul besoin qu'il voit et qui vient à son esprit, c'est de l'or et de l'argent. Il voit ses amis guéris, mais il ne se pose pas la question si lui-même peut être guéri. Enfermé. Enfermé. On pourrait se dire, Jésus a oublié cet homme. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu ne nous oublie pas. Et il n'a jamais oublié son enfant à la belle porte. Aussi ce jour-là, si cet homme n'est pas capable d'y aller, parce que le texte est clair, les aveugles et les boiteux, va pas trop vite, les aveugles et les boiteux, voici ce qu'il nous est dit dans le texte, s'approchèrent de lui. Cet homme n'est pas capable de s'approcher. Cet homme n'est pas capable de formuler une prière auprès de Jésus pour qu'il soit guéri. Aussi, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui qui va vers Jésus, mais c'est Jésus qui vient à lui. Il vient en lui personnifié au travers de Pierre et de Jean. Pierre et Jean montent au temple. Et là, il va se passer juste quelque chose d'extraordinaire. Danielson, tu veux bien venir, s'il te plaît. Je me suis permis d'inviter quelqu'un pour vivre cette situation. Tiens, je te présente un tapis sur lequel tu peux t'asseoir humblement. Il n'a pas le bon rôle aujourd'hui, si tu veux bien t'asseoir là. Il va jouer le rôle de notre boiteux mendiant. Et voici ce qui se passe dans le texte. Et il faut bien tout comprendre, mettre tout en situation. Ça va se passer extrêmement vite. On pourrait penser qu'il y a une démarche spirituelle que Pierre et Jean vont prêcher à cet homme. Non. Pierre et Jean montent au temple. Et c'est quelque chose qui se passe assez vite. Et vous allez comprendre pourquoi. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il ne fait pas comme ça à Pierre et Jean. Hey, « Hé, Pierre et Jean, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent ?» Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Admettons, demande-moi l'aumône. Le pauvre, c'est dur. Alors, la main droite, plutôt. Voilà, il va tendre la main. Pierre et Jean montaient au temple. Ils arrivent. L'aumône, voyant Pierre et Jean qui allaient rentrer, leur demanda l'aumône. Voilà, il tend la main. Il dit, mais donne-moi de l'or et de l'argent. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et là, ils vont avoir un échange, un rapide échange. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir. C'est sa prière. Il ne peut formuler autre chose comme prière. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Il a compris, Pierre, que sa demande, c'est celle-là. Il a compris que ce qu'il est en train de demander est bien en deçà de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Aussi, Pierre ne le prend pas en traître. Et en même temps, il ne lui laisse pas le temps de trop réfléchir. Parce qu'en entendant Pierre lui dire, je n'ai ni argent ni or, vas-y, passe. Il ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et on passe à la suite. Regardez ce qui va se passer. Ça va aller très, très vite. Alors qu'il tend la main pour recevoir, Pierre l'agrippe. OK, et ça ne se voit nulle part ailleurs. Quand Jésus a prié pour des paralytiques, quand Jésus a prié pour l'homme qui était auprès de la piscine, jamais Jésus pose la main sur un homme pour l'aider. Au contraire, il y a une démarche de foi dans ces hommes-là. Il y a une démarche spirituelle. Et c'est ces hommes, sur la parole de Jésus, qui décident de se lever. Mais lui, il n'a pas cette démarche-là. Il n'est pas dans cette prière-là. La seule prière qu'il fait, c'est de l'argent et de l'or. Je ne veux pas autre chose. Je ne peux pas formuler autre chose. Je suis dans une prison spirituelle qui m'empêche d'élever la prière. Qu'est-ce que fait Pierre ? Il l'a compris. Et aussi, il ne lui laisse pas le temps de réfléchir par rapport à l'argent et l'or. J'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et là, il le tire. Comprenez ce qui se passe ? Oui, bravo. Il le tire, merci beaucoup, merci beaucoup. Il le tire. Et alors qu'il le tire, regardez ce qui se passe au même instant. Dieu ne lui laisse pas le choix. Il pourrait être dans une attitude réfractaire par rapport... Dieu est en train de le sortir d'une prison spirituelle. Il ne lui laisse pas le temps de faire marche arrière. Il ne lui laisse pas le temps de remettre en question les paroles de Pierre et de Jean. Par contre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Au même instant, ses chevilles et ses pieds devinrent fermes. En gros, Pierre le tire. Il est surpris sans doute. Et là, alors qu'il pourrait être réfractaire, le Saint-Esprit claque. Ouais. Il est obligé d'être debout. Dieu ne lui laisse pas le choix. Sa prière est infiniment en deçà de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Mais Dieu n'a pas oublié son enfant, n'a pas oublié cette incapacité qu'il a de formuler une prière plus grande, plus haute, infiniment au-delà de ce qu'il entend, comprend, imagine, prie. Il ne peut pas prier autre chose que de l'or et de l'argent, aussi Dieu va le chercher. Et alors, parce qu'il, d'un saut, pouf, il est propulsé. Il fut debout et se mit à marcher. Vous imaginez la surprise ? Il n'a jamais connu autre chose. Dieu est en train de casser la routine spirituelle dans laquelle il est pour qu'il vive dans une nouvelle dimension à laquelle Dieu l'appelle. Il l'oblige à voir au-delà de ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il demande, pour entrer dans l'infiniment au-delà. D'un saut, il se retrouve à marcher en sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'est lui, celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu es et quelle chaîne te retient ce matin. Quelle chaîne te retient d'oser ? Quelle chaîne te retient de vivre l'infiniment au-delà de Dieu, de ce que Dieu a pour ta vie ? Or, à celui qui peut faire, par sa puissance agissante en toi, infiniment au-delà de ce que tu penses, dis et prie, Dieu veut agir dans ta vie et briser la chaîne. Il veut élargir ta compréhension de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il veut élargir les limites spirituelles dans lesquelles tu es. Et peut-être ce matin, c'est des limites humaines, c'est peut-être de toi-même. Il y a une ambition spirituelle qui t'échappe. Dieu a une ambition pour ta vie. Mais cette ambition spirituelle vient se confronter à ton ambition personnelle aussi, dans ta prière. Tu n'oses pas rentrer dans cette dynamique-là. Parce que le prix de la consécration, parce que le contentement, tu te contentes de ce que tu as et tu t'en réjouis, freine et retient ta prière, celle qui est de dire « Seigneur, je veux vivre ton ambition spirituelle. » Aussi, c'est ton ambition personnelle aujourd'hui qui te limite, qui te retient. Dieu veut casser cette chaîne ce matin et te dire qu'il y a la mer rouge qui t'attend, certes, mais il y a plein d'autres choses que Dieu veut t'amener à vivre parce que Dieu ambitionne tellement plus. Ne te contente pas de ce que tu as. Tu vas passer à côté. Peut-être la deuxième chose, tu es comme la tsunamite et tu as enterré ta prière. Cette prière, tu l'as enterrée et elle est douloureuse, cette prière. Et plus j'en parle, plus ça remue ton cœur et plus ça fait mal. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de travailler au fond de ton cœur et cette prière que tu as enterrée, il est en train de l'exhumer pour la gloire de son nom. Et il y a un combat au fond de ton cœur, il y a une lutte. C'est une chaîne qui te retient. Cette chaîne t'empêche de formuler cette prière dans ta bouche. C'est même pas pensable. Tu ne veux surtout pas effleurer de peur d'être trompé, comme la tsunamite va dire à l'homme de Dieu. Je ne veux pas être trompé une nouvelle fois. Je ne veux pas être blessé une nouvelle fois. C'est une prière trop douloureuse dans ma vie. Et cette prière-là, elle, dans ton cœur, cette prière que tu as enterrée, tu es retenu de la faire. Et si Dieu avait décidé, comme pour la tsunamite, de dire dans un an, tu vivras l'accomplissement de ta prière. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'exhumer cette prière tellement douloureuse pour la vivre? Dernier axe, j'ai demandé à l'équipe de louange de s'approcher. Tu es emprisonné. Et j'aimerais vous parler d'une prison qui est celle que peuvent être nos prières. Nos prières peuvent être des prisons spirituelles. Nous pouvons dans nos prières limiter l'action de Dieu, comme cet homme a limité l'action de Dieu. Mendiant, boiteux, mais spirituellement, il ne vit pas ce que Dieu veut l'amener à vivre, il vit le fait d'être mendiant. On mendie Dieu. Et Dieu est frustré, il est à l'image d'Élisée qui quelque part par rapport à ce roi va lui dire mais fallait demander plus. Alors des fois dans nos cœurs, on n'ose pas demander, ou on est dans un contexte spirituel qui nous empêche de demander, d'envisager plus. On est enfermé dedans. Dieu ne va pas laisser le choix au mendiant. Il va le sortir, il va le tirer. Des fois, Dieu permet que nos habitudes, nos contextes spirituels, nos environnements soient complètement bousculés dans un seul but, de nous voir prononcer de nos bouches la prière de l'infiniment au-delà de ce que nous pensons et disons. Ouh, que c'est dur quand Dieu bouscule notre routine, notre environnement qui nous rassure. Mais par moments, Dieu le fait pour nous amener à vivre l'infiniment au-delà. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je te le dis, je ne dis pas que c'est facile, au contraire, ça peut être compliqué. Comme ça a pu être compliqué, c'est tellement compliqué pour cet homme boiteux mendiant que quand vient même Jésus passer devant lui, il ne voyait pas l'utilité de le vivre. Dieu peut-être est en train d'ouvrir tes yeux sur l'infiniment au-delà qu'il veut te donner de vivre dans ta vie. Amen. Aussi ce matin, c'est peut-être ce que tu vis. Tu es emprisonné dans une prière, emprisonné dans un contexte qui t'empêche de prononcer l'infiniment au-delà. La Bible dit que Jésus est venu briser les chaînes, briser les liens. Et souvent la Bible nous parle de chaînes invisibles, il y a des chaînes invisibles qui sont sur ta vie. Et le Saint-Esprit ce matin veut passer au milieu de nous. Semblable à l'image de la prière de Paul qui prie pour que notre perception, notre vision soit élargie. Cette vision de ce que Dieu veut faire, cette vision de ce que Dieu va accomplir au-delà, il veut nous amener à vivre l'infiniment au-delà de ce que nous pensons et disons. Ta prière peut être bousculée ce matin. Ton contexte spirituel peut être bousculé. Tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Maintenant, je voudrais t'encourager à accepter que Dieu bouleverse les choses pour vivre l'infiniment au-delà. Je voudrais qu'on prie quelques instants ensemble, si vous voulez bien. Baissons nos fronts. Et alors qu'on est dans la présence de Dieu, et comme Paul va le formuler, ô Esprit de Dieu, affermis nos cœurs. Affermis nos cœurs. Seigneur, dans notre compréhension de ton amour, mais plus encore, dans notre compréhension de ce que tu peux faire, par ta puissance en nous, tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, disons, proclamons, imaginons. Dieu veut briser la chaîne, cette chaîne qui te retient. Tu ne vis pas l'ambition spirituelle que Dieu a pour ta vie. Tu es retenu par ta propre ambition qui est humaine, qui te cantonne à une réalité, à un contentement. Mais Dieu, quelque part, est frustré dans son cœur. Il dit, mais t'as tellement plus à vivre avec moi. Ta prière est limitée. Tu n'oses pas formuler la prière qui t'a fait mal et qui te fait mal encore aujourd'hui. Tu n'oses plus la prononcer. Et si le Saint-Esprit était en train d'exhumer cette prière que toi-même tu as enterrée parce que trop douloureuse. Et si c'était le temps de Dieu pour toi de vivre l'exaucement de ta prière? Cet après-midi, tu es semblable à un mendiant boiteux à la porte de la petite label. C'est ta normalité. Mais cette normalité bride ta prière ce soir. Peut-être c'est ta religiosité, peut-être c'est ton style de vie, peut-être c'est ta souffrance autour de laquelle tu t'es construit une vie et qui finalement amène ta prière à être bridée spirituellement. Ta prière est enfermée et ta prière t'enferme ce matin. Le Seigneur est venu briser la chaîne de la routine, de l'habitude, pour que tu puisses vivre enfin l'infiniment au-delà. Il y a des choses à vivre avec ton Dieu et Dieu te le ressasse dans ton cœur. Or, à celui qui peut faire par sa puissance en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, disons, imaginons, prions, demandons, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Alors que je voudrais qu'on prenne un temps, on va rentrer dans un temps de prière, quelques instants. Je voudrais t'inviter à te lever et à dire, je veux briser cette chaîne sur ma vie. Ce message a parlé à ton cœur. Il y a tellement de chaînes, tu t'es vu peut-être dans plein de choses ce matin. Et tu sens en toi, peut-être inconsciemment ou consciemment, que ta prière est retenue. Que ta prière est retenue. Il y a une chaîne t'empêche d'avancer, qui t'empêche de vivre l'infiniment au-delà. Il y a une chaîne, peut-être d'incrédulité, certes, oui, mais manifestée par ton contexte de vie, manifestée par ce que tu vis actuellement en ce moment. Et la prière que Dieu fait, au travers de la bouche de Paul, ô Seigneur, viens affermir l'homme, la femme intérieure, par une compréhension élargie de ce que je peux faire au travers de leur vie. Il y a une puissance qui veut se déverser dans ta vie, pour que tu vives l'infiniment au-delà de ce que tu peux dire, penser, prier, demander à Dieu. Ça va passer par le fait d'être bousculé, débousculé en ce moment, très bien. N'y a-t-il pas une prière que Dieu veut faire émerger dans ta vie? N'y a-t-il pas une nouvelle prière que Dieu veut faire émerger en toi, inspirée par la puissance d'en haut? Une prière que tu n'oses pas faire, une prière que tu retiens. Une prière peut-être qui fait mal en toi. Une prière de contentement. Saint-Esprit va agir en toi cet après-midi par la puissance d'en haut. Aussi ce matin, cet après-midi, je voudrais nous inviter à prier tous ensemble. À commencer à élever la voix et à dire, Esprit de Dieu, viens briser les chaînes. Esprit de Dieu, viens briser les chaînes. Esprit de Dieu, viens briser les chaînes, conscientes ou inconscientes qui sont en nous, qui nous retiennent de vivre l'infiniment au-delà, qui nous retiennent de voir ce que Dieu peut faire en nous, qui nous retiennent de voir ce que Dieu veut faire en nous. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, passe au milieu de nous, dans les cœurs et dans les vies, dans ce que les uns et les autres, dans ce quoi les uns et les autres sont enfermés spirituellement. Éclate le plafond d'incrédulité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, passe au milieu de nous, Esprit de Dieu. Viens libérer ton Église, viens libérer ton peuple qui aspire à vivre l'infiniment au-delà. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent, Seigneur. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas faire simplement plus, mais infiniment au-delà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous raccompagne et que Dieu fasse tomber les chaînes, nos chaînes, pour entrer dans l'infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander, prier. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin d'après-midi.